Denis Diderot, la religieuse. Je m'arrangeais dans ma cellule. J'assistais à l'office du soir, au souper, à la récréation qui suivit. Quelques religieuses s'approchèrent de moi. D'autres s'en éloignèrent. Celles-là comptaient sur ma protection auprès de la supérieure. Celle-ci était déjà alarmée de la prédilection qu'elle m'avait accordée. Ces premiers moments se passèrent en éloges réciproques, en questions sur la maison que j'avais quittée, en essais de mon caractère, de mes inclinations, de mes goûts, de mon esprit. On vous tâte partout. C'est une suite de petites embûches qu'on vous tend, et d'où l'on tire les conséquences les plus justes. Par exemple, on jette un mot de médisance et l'on vous regarde. On entame une histoire et l'on attend que vous en demandiez la suite, ou que vous la laissiez. Si vous dites un mot ordinaire, on le trouve charmant, quoi qu'on sache bien qu'il n'en est rien. On vous loue ou l'on vous blâme à dessein. On cherche à démêler vos pensées les plus secrètes. On vous interroge sur vos lectures. On vous offre des livres sacrés et profanes. On remarque votre choix. On vous invite à de légères infractions de la règle. On vous fait des confidences. On vous jette des mots sur les travers de la supérieure. Tout se recueille et se redit. On vous quitte, on vous reprend. On sonde vos sentiments sur les mœurs, sur la piété, sur le monde, sur la religion, sur la vie monastique, sur tout. Il résulte de ces expériences réitérées une épithète qui vous caractérise et qu'on attache en surnom à celui que vous portez. Ainsi, je fus appelée Sainte Suzanne la réservée. Le premier soir, j'eus la visite de la supérieure. Elle vint à mon déshabillé. Ce fut elle qui m'ôta mon voile et ma guimpe et qui me coiffa de nuit. Ce fut elle qui me déshabilla. Elle me tint sans propos doux et me fit mille caresses qui m'embarrassèrent un peu. Je ne sais pas pourquoi, car je n'y entendais rien, ni elle non plus. À présent même que j'y réfléchis, qu'aurions-nous pu y entendre? Cependant, j'en parlais à mon directeur qui traita cette familiarité, qui me paraissait innocente et qui me le paraît encore, d'un ton fort sérieux et me défendit gravement de m'y prêter davantage. Elle me baisa le cou, les épaules, les bras, elle loua mon embonpoint et ma taille et me mit au lit. Elle releva mes couvertures d'un et d'autre côté, me baisa les yeux, tira mes rideaux et s'en alla. J'oubliais de vous dire qu'elle supposa que j'étais fatiguée et qu'elle me permit de rester au lit tant que je voudrais. J'usais de sa permission. C'est, je crois, la seule bonne nuit que j'ai passée dans le cloître, et je n'en suis presque jamais sortie. Le lendemain, sur les 9 heures, j'entendis frapper doucement à ma porte. J'étais encore couchée. Je répondis, on entra. C'était une religieuse qui me dit, d'assez mauvaise humeur, qu'il était tard et que la mère supérieure me demandait. Je me levai, je m'habillai à la hâte et j'allai. « Bonjour, mon enfant, me dit-elle. Avez-vous bien passé la nuit? Voilà du café qui vous attend depuis 1 heure. Je crois qu'il sera bon. Dépêchez-vous de le prendre et puis après nous causerons. » Et tout en disant cela, elle étendit un mouchoir sur la table, en déployait un autre sur moi, versait le café et le sucrait. Les autres religieuses en faisaient autant les unes chez les autres. Tandis que je déjeunais, elle m'entretint de mes compagnes, me les peignit selon son aversion ou son goût, me fit 1000 amitiés, 1000 questions sur la maison que j'avais quittée, sur mes parents, sur les désagréments que j'avais eus, loua, blâma à sa fantaisie, n'entendit jamais ma réponse jusqu'au bout. Je ne la contredis point. Elle fut contente de mon esprit, de mon jugement et de ma discrétion. Cependant, il vint une religieuse, puis une autre, puis une troisième, puis une quatrième, une cinquième. On parla des oiseaux de la mère celle-ci, des tiques de la sœur celle-là, de tous les petits ridicules des absentes. On se mit en gaieté. Il y avait une épinette dans un coin de la cellule. J'y posai les doigts par distraction. Car, nouvelle arrivée dans la maison, et ne connaissant point celle dont on plaisantait, cela ne m'amusait guère. Et quand j'aurais été plus au fait, cela ne m'aurait pas amusé davantage. Il faut trop d'esprit pour bien plaisanter. Et puis, qu'est-ce qui n'a point un ridicule ? Tandis que l'on riait, je faisais des accords. Peu à peu, j'attirais l'attention. La supérieure vint à moi et me frappant un petit coup sur l'épaule. « Allons, Sainte Suzanne, me dit-elle, amuse-nous, joue d'abord et puis après tu chanteras. » Je fis ce qu'elle me disait. J'exécutai quelques pièces que j'avais dans les doigts. Je préludais de fantaisie et puis je chantai quelques versets de psaume de Mondonville. « Voilà qui est fort bien, me dit la supérieure. Mais nous avons de la sainteté à l'église tant qu'il nous plaît. Nous sommes seuls. Celles-ci sont mes amies et elles seront aussi les tiennes. Chante-nous quelque chose de plus gai. » Quelques-unes des religieuses dirent « Mais elle ne sait peut-être que cela. Elle est fatiguée de son voyage. Il faut l'aménager. En voilà bien assez pour une fois. » « Non, non, dit la supérieure. Elle s'accompagne à merveille. Elle a la plus belle voix du monde. » En effet, je ne l'ai pas laide. Cependant, plus de justesse, de douceur et de flexibilité que de force et d'étendue. Je ne la tiendrai quitte qu'elle ne nous ait dit autre chose. J'étais un peu offensée du propos des religieuses. Je répondis à la supérieure que cela n'amusait plus les sœurs. Mais cela m'amuse encore, moi. Je me doutais de cette réponse. Je chantais donc une chansonnette assez délicate. Et toutes battirent des mains, me louèrent, m'embrassèrent, me caressèrent, m'en demandèrent une seconde. Petite minauderie fausse, dictée par la réponse de la supérieure. Il n'y en avait presque pas une là qui ne m'eût ôté ma voix et rompu les doigts si elle l'avait pu. Celles qui n'avaient peut-être entendu de musique de leur vie s'avisèrent de jeter sur mon chant des mots aussi ridicules que déplaisants, qui ne prirent point auprès de la supérieure. « Taisez-vous !» leur dit-elle. « Elle joue et chante comme un ange, et je veux qu'elle vienne ici tous les jours. J'ai su un peu de clavecin autrefois, et je veux qu'elle m'y remette. »« Ah, madame !» lui dis-je. « Quand on a su autrefois, on n'a pas tout oublié. »« Très volontiers, cède-moi ta place. » Elle préluda. Elle joua des choses folles, bizarres, décousues, comme ses idées. Mais je vis, à travers tous les défauts de son exécution, qu'elle avait la main infiniment plus légère que moi. Je le lui dis, car j'aime à louer, et j'ai rarement perdu l'occasion de le faire avec vérité. Cela est si doux. Les religieuses s'éclipsèrent les unes après les autres, et je restai presque seule avec la supérieure à parler musique. Elle était assise, j'étais debout. Elle me prenait les mains et elle me disait en les serrant « Mais outre qu'elle joue bien, c'est qu'elle a les plus jolis doigts du monde. Voyez donc, sœur Thérèse. » Sœur Thérèse baissait les yeux, rougissait et bégayait. Cependant, que j'eusse les doigts jolis ou non, que la supérieure eût tort ou raison de l'observer, qu'est-ce que cela faisait à cette sœur ? La supérieure m'embrassait par le milieu du corps, et elle trouvait que j'avais la plus jolie taille. Elle m'avait tirée à elle. Elle me fit asseoir sur ses genoux. Elle me relevait la tête avec les mains et m'invitait à la regarder. Elle louait mes yeux, ma bouche, mes joues, mon teint. Je ne répondais rien. J'avais les yeux baissés. Et je me laissais aller à toutes ses caresses comme une idiote. Sœur Thérèse était distraite, inquiète, se promenait à droite et à gauche, touchait à tout sans avoir besoin de rien, ne savait que faire de sa personne. Regardait par la fenêtre, croyait avoir entendu frapper à la porte, et la supérieure lui dit « Sainte Thérèse, tu peux t'en aller si tu t'ennuies. » « Madame, je ne m'ennuie pas. C'est que j'ai mille choses à demander à cet enfant. » « Je le crois. Je veux savoir toute son histoire. Comment réparerai-je les peines qu'on lui a faites si je les ignore? Je veux qu'elle me les raconte sans rien omettre. Je suis sûre que j'en aurai le cœur déchiré et que j'en pleurerai. Mais n'importe. Sainte Suzanne, quand est-ce que je saurai tout ? Madame, quand vous l'ordonnerez ? Je t'en prierai tout à l'heure si nous en avions le temps. Quelle heure est-il ? Sœur Thérèse répondit : Madame, il est 5 heures et les vêpres vont sonner. qu'elle commence toujours. Mais, madame, vous m'aviez promis un moment de consolation avant vêpres. J'ai des pensées qui m'inquiètent. Je voudrais bien ouvrir mon cœur à maman. Si je vais à l'office sans cela, je ne pourrai prier, je serai distraite. Non, non, dit la supérieure, tu es folle avec tes idées. Je gage que je sais ce que c'est. Nous en parlerons demain. Ah, chère mère, dit sœur Thérèse en se jetant aux pieds de la supérieure et en fondant en larmes, que ce soit tout à l'heure. Madame, dis-je à la supérieure en me levant de sur ses genoux où j'étais restée, accordez à ma sœur ce qu'elle vous demande. Ne laissez pas durer sa peine. Je vais me retirer. J'aurai toujours le temps de satisfaire l'intérêt que vous voulez bien prendre à moi. Et quand vous aurez entendu ma sœur Thérèse, elle ne souffrira plus. Je fis un mouvement vers la porte pour sortir. La supérieure me retenait d'une main. Sœur Thérèse, à genoux, s'était emparée de l'autre, la baisait et pleurait. Et la supérieure lui disait « En vérité, Sainte Thérèse, tu es bien incommode avec tes inquiétudes. Je te l'ai déjà dit, cela me déplaît, cela me gêne, et je ne veux pas être gênée. » « Je le sais, mais je ne suis pas maîtresse de mes sentiments. Je voudrais et je ne saurais. » Cependant, je m'étais retirée, et j'avais laissé avec la supérieure la jeune sœur. Je ne pus m'empêcher de la regarder à l'église. Il lui restait de l'abattement et de la tristesse. Nos yeux se rencontrèrent plusieurs fois, et il me sembla qu'elle avait de la peine à soutenir mon regard. Pour la supérieure, elle s'était assoupie dans sa stalle. L'office fut dépêché en un clin d'œil. Le cœur n'était pas, à ce qu'il me parut, l'endroit de la maison où l'on se plaisait le plus. On en sortit avec la vitesse et le babil d'une troupe d'oiseaux qui s'échapperaient de leur volière. Et les sœurs se répandirent les unes chez les autres, en courant, en riant, en parlant. La supérieure se renferma dans sa cellule, et la sœur Thérèse s'arrêta sur la porte de la sienne, m'épiant, comme si elle eût été curieuse de savoir ce que je deviendrais. Je rentrai chez moi, et la porte de la cellule de la sœur Thérèse ne se referma que quelque temps après, et se referma doucement. Il me vint en idée que cette jeune fille était jalouse de moi, et qu'elle craignait que je ne lui ravisse la place qu'elle occupait dans les bonnes grâces et l'intimité de la supérieure. Je l'observai plusieurs jours de suite, et lorsque je me crus suffisamment assurée de mon soupçon par ses petites colères, ses puériles alarmes, sa persévérance à me suivre à la piste, à m'examiner, à se trouver entre la supérieure et moi, à briser nos entretiens, à déprimer mes qualités, à faire sortir mes défauts, plus encore à sa pâleur, à sa douleur, à ses pleurs, au dérangement de sa santé et même de son esprit. Je l'allai trouver et je lui dis « Chère amie, qu'avez-vous ?» Elle ne me répondit pas. Ma visite la surprit et l'embarrassa. Elle ne savait ni que dire ni que faire. « Vous ne me rendez pas assez de justice, parlez-moi vrai. » Vous craignez que je n'abuse du goût que notre mère a pris pour moi, que je ne vous éloigne de son cœur. Rassurez-vous, cela n'est pas dans mon caractère. Si j'étais jamais assez heureuse pour obtenir quelque empire sur son esprit, vous aurez tout celui qu'il vous plaira. Elle vous aime. Elle fait aujourd'hui pour vous précisément ce qu'elle a fait pour moi dans les commencements. Eh bien, soyez sûr que je ne me servirai de la confiance qu'elle m'accordera que pour vous rendre plus chérie. Et cela dépendra-t-il de vous? Et pourquoi cela n'en dépendrait-il pas? Au lieu de me répondre, elle se jeta à mon cou et elle me dit en soupirant « Ce n'est pas votre faute, je le sais bien, je me le dis à tout moment, mais promettez-moi. » Que voulez-vous que je vous promette? Que... « Achevez, je ferai tout ce qui dépendra de moi. » Elle hésita, se couvrit les yeux de ses mains et me dit d'une voix si basse qu'à peine je l'entendais « Que vous la verrez le moins souvent que vous pourrez. » Cette demande me parut si étrange que je ne pus m'empêcher de lui répondre. « Et que vous importe que je voie souvent ou rarement notre supérieure? Je ne suis point fâchée que vous la voyez sans cesse, moi. » Vous ne devez pas être plus fâché que j'en fasse autant. Ne suffit-il pas que je vous proteste que je ne vous nuirai auprès d'elle, ni à vous ni à personne? Elle ne me répondit que par ces mots, qu'elle prononça d'une manière si douloureuse en se séparant de moi et en se jetant sur son lit. « Je suis perdue !»«
Perdue ? Et pourquoi ? Mais il faut que vous me croyiez la plus méchante créature qui soit au monde !»
Nous en étions là lorsque la supérieure entra. Elle avait passé à ma cellule, elle ne m'y avait point trouvé. Elle avait parcouru presque toute la maison inutilement. Et il ne lui vint pas en pensée que j'étais chez sœur Sainte-Thérèse. Lorsqu'elle l'eut appris par celle qu'elle avait envoyée à ma découverte, elle accourut. Elle avait un peu de trouble dans le regard et sur son visage. Mais toute sa personne était si rarement ensemble. Sainte-Thérèse était en silence, assise sur son lit, moi debout. Je lui dis « Ma chère mère, je vous demande pardon d'être venue ici sans votre permission. »
« Il est vrai, me répondit-elle, qu'il eût été mieux de la demander. »
« Mais cette chère sœur m'a fait compassion, j'ai vu qu'elle était en peine. »«
Et de quoi ?»«
Vous le dirai-je. » »« Et pourquoi ne vous le dirai-je pas ? C'est une délicatesse qui fait tant d'honneur à son âme et qui marque si vivement son attachement pour vous. Les témoignages de bonté que vous m'avez donnés ont alarmé sa tendresse. » Elle a craint que je n'obtinsse dans votre cœur la préférence sur elle. Ce sentiment de jalousie, si honnête d'ailleurs, si naturel et si flatteur pour vous, chère mère, était, à ce qui m'a semblé, devenu cruel pour ma sœur, et je la rassurais. La supérieure, après m'avoir écoutée, prit un air sévère et imposant et lui dit « Sœur Thérèse, je vous ai aimée et je vous aime encore. Je n'ai point à me plaindre de vous, et vous n'aurez point à vous plaindre de moi. Mais je ne saurais souffrir ces prétentions exclusives. Défaites-vous-en, si vous craignez d'éteindre ce qui me reste d'attachement pour vous, et si vous vous rappelez le sort de la sœur Agathe. » Puis, se tournant vers moi, elle me dit « C'est cette grande brune que vous voyez au cœur vis-à-vis de moi. » Car je me répondais si peu, il y avait si peu de temps que j'étais à la maison, j'étais si nouvelle que je ne savais pas encore tous les noms de mes compagnes. Elle ajouta « Je l'aimais lorsque sœur Thérèse entra ici et que je commençais à la chérir. Elle eut les mêmes inquiétudes, elle fit les mêmes folies. Je l'en avertis. Elle ne se corrigea point et je fus obligée d'en venir à des voix sévères qui ont duré trop longtemps et qui sont très contraires à mon caractère, car elles vous diront toutes que je suis bonne. » Et que je ne punis jamais qu'à contre-cœur. » Puis, s'adressant à Sainte-Thérèse, elle ajouta « Mon enfant, je ne veux point être gênée, je vous l'ai déjà dit. Vous me connaissez, ne me faites point sortir de mon caractère. » Ensuite, elle me dit, en s'appuyant d'une main sur mon épaule « Venez, Sainte-Suzanne, reconduisez-moi. » Nous sortîmes. Sœur Thérèse voulut nous suivre, mais la supérieure, détournant la tête négligemment par-dessus mon épaule, lui dit d'un ton de despotisme « Rentrez dans votre cellule et n'en sortez pas que je ne vous le permette. » Elle obéit, ferma sa porte avec violence et s'échappa en quelques discours qui firent frémir la supérieure. Je ne sais pas pourquoi, car il n'avait pas de sens. Je vis sa colère et je lui dis « Chère mère, si vous avez quelque bonté pour moi, pardonnez à ma sœur Thérèse. Elle a la tête perdue, elle ne sait ce qu'elle dit, elle ne sait ce qu'elle fait. »
« Que je lui pardonne ? » ?»«
Je le veux bien. Mais que me donnerez-vous ? » ?»« Ah, chère sœur, serais-je assez heureuse pour avoir quelque chose qui vous plût et qui vous apaisa ?» Elle baissa les yeux, rougit et soupira. En vérité, c'était comme un amant. Elle me dit ensuite, en se rejetant nonchalamment sur moi, comme si elle eût défailli, « Approchez votre front, que je le baise. » Je me penchai, et elle me baisa le front. Depuis ce temps, sitôt qu'une religieuse avait fait quelque faute, j'intercédais pour elle, et j'étais sûre d'obtenir sa grâce par quelque faveur innocente. C'était toujours un baiser, ou sur le front, ou sur le cou, ou sur les yeux, ou sur les joues, ou sur la bouche, ou sur les mains, ou sur la gorge, ou sur les bras,
mais plus souvent sur la bouche. Elle trouvait que j'avais l'haleine pure, les dents blanches et les lèvres fraîches et vermeilles. En vérité, je serais bien belle si je méritais la plus petite partie des éloges qu'elle me donnait. Si c'était mon front, il était blanc, uni et d'une forme charmante. Si c'était mes yeux, ils étaient brillants. Si c'était mes joues, elles étaient vermeilles et douces. Si c'était mes mains, elles étaient petites et potelées. Si c'était ma gorge, elle était d'une fermeté de pierre et d'une forme admirable. Si c'était mes bras, il était impossible de les avoir mieux tournés et plus ronds. Si c'était mon cou, aucune des sœurs ne l'avait mieux fait et d'une beauté plus exquise et plus rare. Que sais-je tout ce qu'elle me disait? Il y avait bien quelque chose de vrai dans ses louanges. J'en rabattais beaucoup, mais non pas tout. Quelquefois, en me regardant de la tête aux pieds, avec un air de complaisance que je n'ai jamais vu à aucune autre femme, elle me disait « Non, c'est le plus grand bonheur que Dieu l'ait appelée dans la retraite. Avec cette figure-là dans le monde, elle aurait damné autant d'hommes qu'elle en aurait vu, et elle se serait damnée avec eux. Dieu fait bien tout ce qu'il fait. » Cependant, nous nous avancions vers sa cellule. Je me disposais à la quitter, mais elle me prit par la main et me dit « Il est trop tard pour commencer votre histoire de Sainte-Marie et de Longchamp, mais entrez, vous me donnerez une petite leçon de clavecin. » Je la suivis. En un moment, elle eut ouvert le clavecin, préparé un livre, approché une chaise, car elle était vive. Je m'assis. Elle pensa que je pourrais avoir froid. Elle détacha de dessus les chaises un coussin qu'elle posa devant moi, se baissa et me prit les deux pieds, qu'elle mit dessus, ensuite elle alla se placer derrière la chaise et s'appuyer sur le dossier. Je fis d'abord des accords. Ensuite je jouai quelques pièces de Couperin, de Ramereau, de Scarlatti. Cependant, elle avait levé un coin de mon linge de cou. Sa main était placée sur mon épaule nue et l'extrémité de ses doigts posée sur ma gorge. Elle soupirait. Elle paraissait oppressée, son haleine s'embarrassait. La main qu'elle tenait sur mon épaule, d'abord, la pressait fortement. Puis elle ne la pressait plus du tout, comme si elle eût été sans force et sans vie. Et sa tête tombait sur la mienne. En vérité, cette folle-là était d'une sensibilité incroyable et avait le goût le plus vif pour la musique. Je n'ai jamais connu personne sur qui elle eût produit des effets aussi singuliers. Nous nous amusions ainsi d'une manière aussi simple que douce, lorsque tout à coup la porte s'ouvrit avec violence. J'en eus frayeur, et la supérieure aussi. C'était cette extravagante de Sainte Thérèse. Son vêtement était en désordre, ses yeux étaient troublés. Elle nous parcourait l'une et l'autre avec l'attention la plus bizarre. Les lèvres lui tremblaient, elle ne pouvait parler. Cependant, elle revint à elle et se jeta aux pieds de la supérieure. Je joignis ma prière à la sienne et j'obtins encore son pardon. Mais la supérieure lui protesta de la manière la plus ferme que ce serait le dernier, du moins pour des fautes de cette nature, et nous sortîmes toutes deux ensemble. En retournant dans nos cellules, je lui dis « Chère sœur, prenez garde, vous indisposerez notre mère, je ne vous abandonnerai pas, mais vous userez mon crédit auprès d'elle. » Et je serais désespérée de ne pouvoir plus rien ni pour vous ni pour aucune autre. Mais quelles sont vos idées ? Point de réponse. Que craignez-vous de moi ? Point de réponse. Est-ce que notre mère ne peut pas nous aimer également toutes deux ? Non, non, répondit-elle avec violence. Cela ne se peut. Bientôt je lui répugnerai et j'en mourrai de douleur. Ah, pourquoi êtes-vous venu ici ? Vous n'y serez pas heureuse longtemps, j'en suis sûre, et je serai malheureuse pour toujours. Mais, lui dis-je, c'est un grand malheur, je le sais, que d'avoir perdu la bienveillance de sa supérieure. Mais j'en connais un plus grand, c'est de l'avoir mérité. Vous n'avez rien à vous reprocher. Ah, plût à Dieu ! Si vous vous accusez en vous-même de quelque faute, il faut la réparer, et le moyen le plus sûr, c'est d'en supporter patiemment la peine. Je ne saurais, je ne saurais. Et puis, est-ce à elle à m'en punir ?
À elle, sœur Thérèse, à elle. Est-ce qu'on parle ainsi d'une supérieure ? Cela n'est pas bien, vous vous oubliez. Je suis sûre que cette faute est plus grave qu'aucune de celles que vous vous reprochez.
Ah, plût à Dieu, me dit-elle encore, plût à Dieu.
Et nous nous séparâmes. Elle, pour aller se désoler dans sa cellule, moi, pour aller rêver dans la mienne à la bizarrerie des têtes de femmes. Voilà l'effet de la retraite. L'homme est né pour la société. Séparez-le, isolez-le. Ses idées se désuniront, son caractère se tournera. 1000 affections ridicules s'élèveront dans son cœur. Des pensées extravagantes germeront dans son esprit, comme les ronces dans une terre sauvage. Placez un homme dans une forêt, il y deviendra féroce. Dans un cloître, où l'idée de nécessité se joint à celle de servitude, c'est pis encore. On sort d'une forêt, on ne sort plus d'un cloître. On est libre dans la forêt, on est esclave dans le cloître. Il faut peut-être plus de force d'âme encore pour résister à la solitude qu'à la misère. La misère avilit, la retraite déprave. Vaut-il mieux vivre dans l'abjection que dans la folie ? C'est ce que je n'oserais décider. Mais il faut éviter l'une et l'autre. Je voyais croître de jour en jour la tendresse que la supérieure avait conçue pour moi. J'étais sans cesse dans sa cellule où elle était dans la mienne. Pour la moindre indisposition, elle m'ordonnait l'infirmerie. Elle me dispensait des offices, elle m'envoyait coucher de bonne heure ou m'interdisait l'oraison du matin. Au chœur, au réfectoire, à la récréation, elle trouvait moyen de me donner des marques d'amitié. Au cœur, s'il se rencontrait un verset qui contint quelques sentiments affectueux et tendres, elle le chantait en me l'adressant, ou elle me regardait s'il était chanté par une autre. Au réfectoire, elle m'envoyait toujours quelque chose de ce qu'on lui servait d'exquis. À la récréation, elle m'embrassait par le milieu du corps, elle me disait les choses les plus douces et les plus obligeantes. On ne lui faisait aucun présent que je ne partageasse. Chocolat, café, liqueur, tabac, linge, mouchoir, quoi que ce fût. Elle avait déparé sa cellule d'estampes, d'ustensiles, de meubles et d'une infinité de choses agréables ou commodes pour en orner la mienne. Je ne pouvais presque pas m'en absenter un moment qu'à mon retour je ne me trouvasse enrichie de quelques dons. J'allais l'en remercier chez elle, et elle en ressentait une joie qui ne peut s'exprimer. Elle m'embrassait, me caressait, me prenait sur ses genoux, m'entretenait des choses les plus secrètes de la maison et se promettait. Si je l'aimais, une vie 1000 fois plus heureuse que celle qu'elle aurait passée dans le monde. Après cela, elle s'arrêtait, me regardait avec des yeux attendris et me disait « Sœur Suzanne, m'aimez-vous ?» « Et comment ferais-je pour ne pas vous aimer ? Il faudrait que j'eusse l'âme bien ingrate. » »«
Cela est vrai. Vous avez tant de bonté. » »«
Dites de goût pour vous. » Et en prononçant ces mots, elle baissait les yeux. La main dont elle me tenait embrassée me serrait plus fortement. Celle qu'elle avait appuyée sur mon genou pressait davantage. Elle m'attirait sur elle. Mon visage se trouvait placé sur le sien. Elle soupirait. Elle se renversait sur sa chaise. Elle tremblait. On eût dit qu'elle avait à me confier quelque chose et qu'elle n'osait. Elle versait des larmes et puis elle me disait « Ah, sœur Suzanne, vous ne m'aimez pas. »
« Je ne vous aime pas, chère mère. »
« Non. » « Mais dites-moi ce qu'il faut que je fasse pour vous le prouver. »
« Il faudrait que vous le devinassiez. »
Je cherche, je ne devine rien. Cependant, elle avait levé son linge de cou et avait mis une de mes mains sur sa gorge. Elle se taisait, je me taisais aussi. Elle paraissait goûter le plus grand plaisir. Elle m'invitait à lui baiser le front, les joues, les yeux et la bouche, et je lui obéissais. Je ne crois pas qu'il y eût du mal à cela. Cependant, son plaisir s'accroissait. Et comme je ne demandais pas mieux que d'ajouter à son bonheur d'une manière aussi innocente,
je lui baisai encore le front, les joues, les yeux et la bouche. La main qu'elle avait posée sur mon genou se promenait sur tous mes vêtements, depuis l'extrémité de mes pieds jusqu'à ma ceinture, me pressant tantôt dans un endroit, tantôt en un autre. Elle m'exhortait en bégayant et d'une voix altérée et basse à redoubler mes caresses. Je les redoublais. Enfin, il vint un moment, je ne sais si ce fut de plaisir ou de peine, où elle devint pâle comme la mort. Ses yeux se fermèrent, tout son corps se tendit avec violence, ses lèvres se fermèrent d'abord, elles étaient humectées comme d'une mousse légère. Puis sa bouche s'entr'ouvrit et elle me parut mourir en poussant un profond soupir. Je me levai brusquement, je crus qu'elle se trouvait mal, je voulais sortir, appeler. Elle entr'ouvrit faiblement les yeux et me dit d'une voix éteinte « Innocente, ce n'est rien, qu'allez-vous faire? Arrêtez !» Je la regardai avec des yeux hébétés, incertaine si je resterais ou si je sortirais. Elle rouvrit encore les yeux, elle ne pouvait plus parler du tout. Elle me fit signe d'approcher et de me replacer sur ses genoux. Je ne sais ce qui se passait en moi. Je craignais, je tremblais. Le cœur me palpitait. J'avais de la peine à respirer. Je me sentais troublée, oppressée, agitée. J'avais peur. Il me semblait que les forces m'abandonnaient et que j'allais défaillir. Cependant, je ne saurais dire que ce fut de la peine que je ressentisse. J'allai près d'elle. Elle me fit signe encore de la main de m'asseoir sur ses genoux. Je m'assis. Elle était comme morte, et moi, comme si j'allais mourir. Nous demeurâmes assez longtemps l'une et l'autre dans cet état singulier. Si quelque religieuse fût survenue, en vérité, elle eût été bien effrayée. Elle aurait imaginé ou que nous nous étions trouvés mal, ou que nous nous étions endormis. Cependant, cette bonne supérieure, car il est impossible d'être si sensible et de n'être pas bonne, me parut revenir à elle. Elle était toujours renversée sur sa chaise. Ses yeux étaient toujours fermés, mais son visage s'était animé des plus belles couleurs. Elle prenait une de mes mains qu'elle baisait et moi je lui disais « Ah, chère mère, vous m'avez bien fait peur !» Elle sourit doucement, sans ouvrir les yeux. « Mais est-ce que vous n'avez pas souffert ?»« Non, je l'ai cru. » L'innocente, ah, la chère innocente, qu'elle me plaît! Et en disant ces mots, elle se releva, se remit sur sa chaise, me prit à brasse-corps et me baisa sur les joues avec beaucoup de force. Puis elle me dit, quel âge avez-vous?
Je n'ai pas encore 20 ans.
Cela ne se conçoit pas.
Chère mère, rien n'est plus vrai.
Je veux savoir tout de votre vie. Vous me la direz?
Oui, chère mère.
Toutes ?
Toutes.
Mais on pourrait venir. Allons nous mettre au clavecin. Vous me donnerez la leçon.
Nous y allâmes. Mais je ne sais comment cela se fit. Les mains me tremblaient. Le papier ne me montrait qu'un amas confus de notes. Je ne pus jamais jouer. Je le lui dis, elle se mit à rire. Elle prit ma place, mais ce fut pis encore. À peine pouvait-elle soutenir ses bras.
Mon enfant, me dit-elle. Je vois que tu n'es guère en état de me montrer, ni moi d'apprendre. Je suis un peu fatiguée. Il faut que je me repose. Adieu. Demain, sans plus tarder, je veux savoir tout ce qui s'est passé dans cette chère petite âme-là. Adieu. Les autres fois, quand je sortais, elle m'accompagnait jusqu'à sa porte. Elle me suivait des yeux tout le long du corridor jusqu'à la mienne. Elle me jetait un baiser avec les mains et ne rentrait chez elle que quand j'étais rentrée chez moi. Cette fois-ci, à peine se leva-t-elle. Ce fut tout ce qu'elle put faire que de gagner le fauteuil qui était à côté de son lit. Elle s'assit, pencha la tête sur son oreiller, me jeta le baiser avec les mains, ses yeux se fermèrent et je m'en allai. Ma cellule était presque vis-à-vis la cellule de Sainte Thérèse. La sienne était ouverte. Elle m'attendait. Elle m'arrêta et me dit « Ah, Sainte Suzanne !» Vous venez de chez notre mère ?
Oui, lui dis-je.
Vous y êtes demeuré longtemps ?
Autant qu'elle l'a voulu.
Ce n'est pas là ce que vous m'aviez promis. Je ne vous ai rien promis. Oseriez-vous me dire ce que vous y avez fait ?
Quoique ma conscience ne me reproche à rien, je vous avouerai cependant, monsieur le marquis, que sa question me troubla. Elle s'en aperçut, elle insista et je lui répondis. « Chère sœur, peut-être ne m'en croiriez-vous pas, mais vous en croirez peut-être notre chère mère et je la prierai de vous en instruire. »
« Ma chère Sainte Suzanne, me dit-elle avec vivacité, gardez-vous-en bien, vous ne voulez pas me rendre malheureuse, elle ne me le pardonnerait jamais. Vous ne la connaissez pas, elle est capable de passer de la plus grande sensibilité jusqu'à la férocité. Je ne sais pas ce que je deviendrai. Promettez-moi de ne lui rien dire. »
« Vous le voulez ?
Je vous le demande à genoux. Je suis désespérée, je vois bien qu'il faut me résoudre, je me résoudrai. Promettez-moi de ne lui rien dire. »
Je la relevai, je lui donnai ma parole. Elle y compta, elle eut raison. Et nous nous renfermâmes, elle dans sa cellule, moi dans la mienne. Rentrée chez moi, je me trouvai rêveuse. Je voulus prier et je ne le pus pas. Je cherchais à m'occuper. Je commençais un ouvrage que je quittais pour un autre, que je quittais pour un autre encore. Mes mains s'arrêtaient d'elles-mêmes et j'étais comme imbécile. Jamais je n'avais rien éprouvé de pareil. Mes yeux se fermèrent d'eux-mêmes. Je fis un petit sommeil, quoique je ne dorme jamais le jour. Réveillée, je m'interrogeais sur ce qui s'était passé entre la supérieure et moi. Je m'examinais. Je crus entrevoir, en examinant encore. Mais c'était des idées si vagues, si folles, si ridicules, que je les rejetais loin de moi. Le résultat de mes réflexions, c'est que c'était peut-être une maladie à laquelle elle était sujette. Puis il m'en vint une autre, c'est que peut-être cette maladie se gagnait, que Sainte Thérèse l'avait prise, et que je la prendrais aussi. Le lendemain, après l'office du matin, notre supérieur me dit « Sainte Suzanne, c'est aujourd'hui que j'espère savoir tout ce qui vous est arrivé. Venez. » J'allais. Elle me fit asseoir dans son fauteuil à côté de son lit, et elle se mit sur une chaise un peu plus basse. Je la dominais un peu, parce que je suis plus grande et que j'étais plus élevée. Elle était si proche de moi que mes deux genoux étaient entrelacés dans les siens, et elle était accoudée sur son lit. Après un petit moment de silence, je lui dis « Quoique je sois bien jeune, j'ai bien eu de la peine. Il y aura bientôt 20 ans que je suis au monde et 20 ans que je souffre. Je ne sais pas si je pourrai vous dire tout et si vous aurez le cœur de l'entendre. Peine chez mes parents, peine au couvent de Sainte-Marie, peine au couvent de Longchamp, peine partout. Chère mère, par où voulez-vous que je commence ?
Par les premières. »
« Mais, lui dis-je, chère mère, cela sera bien long et bien triste, et je ne voudrais pas vous attrister si longtemps. »
« Ne crains rien, j'aime pleurer. C'est un état délicieux pour une âme tendre que celui de verser des larmes. Tu dois aimer à pleurer aussi. Tu essuieras mes larmes, j'essuierai les tiennes. Et peut-être nous serons heureuses au milieu du récit de tes souffrances. Qui sait jusqu'où l'attendrissement peut nous mener ?»
Et en prononçant ces derniers mots, elle me regarda de bas en haut, avec des yeux déjà humides. Elle me prit les deux mains, elle s'approcha de moi plus près encore, en sorte qu'elle me touchait et que je la touchais.
« Raconte, mon enfant, » dit-elle. « J'attends, je me sens les dispositions les plus pressantes à m'attendrir. Je ne pense pas avoir eu de ma vie un jour plus compatissant et plus affectueux. »
Je commençais donc mon récit à peu près comme je viens de vous l'écrire. Je ne saurais vous dire l'effet qu'il produisit sur elle, les soupirs qu'elle poussa, les pleurs qu'elle versa, les marques d'indignation qu'elle donna contre mes cruels parents, contre les filles affreuses de Sainte-Marie, contre celles de Longchamp. Je serais bien fâchée qu'il leur arrivât la plus petite partie des maux qu'elle leur souhaita. Je ne voudrais pas avoir arraché un cheveu de la tête de mon plus cruel ennemi. De temps en temps, elle m'interrompait, elle se levait, elle se promenait, puis elle se rasseyait à sa place.
D'autres fois, elle levait les mains et les yeux au ciel, et puis elle se cachait la tête entre mes genoux. Quand je lui parlais de ma scène du cachot, de celle de mon exorcisme, de mon amende honorable, elle poussa presque des cris. Quand je fus à la fin, je me tus, et elle resta pendant quelque temps le corps penché sur son lit, le visage caché dans sa couverture et les bras étendus au-dessus de sa tête. Et moi, je lui disais, « Chère mère, je vous demande pardon de la peine que je vous ai causée. Je vous avais prévenue, mais c'est vous qui l'avez voulu. » Et elle ne me répondait que par ces mots, « Les méchantes créatures, les horribles créatures. Il n'y a que dans les couvents où l'humanité puisse s'éteindre à ce point. Lorsque la haine vient à s'unir à la mauvaise humeur habituelle, on ne sait plus où les choses seront portées. Heureusement, je suis douce. J'aime toutes mes religieuses. Elles ont pris, les unes plus, les autres moins, de mon caractère, et elles s'aiment toutes entre elles. Mais comment cette faible santé a-t-elle pu résister à tant de tourments? Comment tous ces petits membres n'ont-ils pas été brisés? Comment toute cette machine délicate n'a-t-elle pas été détruite? Comment l'éclat de ses yeux ne s'est-il pas éteint dans les larmes? Les cruelles, serrer ses bras avec des cordes. » Et elle me prenait les bras et elle les baisait. Noyer de larmes ses yeux et elle les baisait. Arracher la plainte et le gémissement de cette bouche et elle la baisait. Condamner ce visage charmant et serein à se couvrir sans cesse des nuages de la tristesse et elle le baisait. Faner les roses de ses joues, et elle les flattait de la main et les baisait. Déparer cette tête, arracher ses cheveux, charger ce front de soucis, et elle baisait ma tête, mon front, mes cheveux. Oser entourer ce cou d'une corde et déchirer ses épaules avec des pointes aiguës, et elle écartait mon linge de cou et de tête. Elle entr'ouvrait le haut de ma robe. Mes cheveux tombaient épars sur mes épaules découvertes. Ma poitrine était à demi nue et ses baisers se répandaient sur mon cou, sur mes épaules découvertes et sur ma poitrine à demi nue. Je m'aperçus alors, au tremblement qui la saisissait, au trouble de son discours, à l'égarement de ses yeux et de ses mains, à son genou qui se pressait entre les miens, à l'ardeur dont elle me serrait et à la violence dont ses bras m'enlançaient, que sa maladie ne tarderait pas à la prendre. Je ne sais ce qui se passait en moi, mais j'étais saisie d'une frayeur, d'un tremblement et d'une défaillance qui me vérifiaient le soupçon que j'avais eu, que son mal était contagieux. Je lui dis, « Chère mère, voyez dans quel désordre vous m'avez mise, si l'on venait. Reste, reste, me dit-elle d'une voix oppressée, on ne viendra pas. » Cependant, je faisais effort pour me lever et m'arracher d'elle, et je lui disais, « Chère mère, prenez garde, voilà votre mal qui va vous prendre, souffrez que je m'éloigne. » Je voulais m'éloigner, je le voulais, cela est sûr, mais je ne le pouvais pas. Je ne me sentais aucune force, mes genoux se dérobaient sous moi. Elle était assise, j'étais debout, elle m'attirait, je craignis de tomber sur elle et de la blesser. Je m'assis sur le bord de son lit et je lui dis, « Chère mère, je ne sais ce que j'ai, je me trouve mal. » « Et moi aussi, me dit-elle, mais repose-toi un moment, cela passera, ce ne sera rien. » En effet, ma supérieure reprit du calme, et moi aussi. Nous étions l'une et l'autre abattues. Moi, la tête penchée sur son oreiller, elle, la tête posée sur un de mes genoux, le front placé sur une de mes mains. Nous restâmes quelques moments dans cet état. Je ne sais ce qu'elle pensait. Pour moi, je ne pensais à rien, je ne le pouvais. J'étais d'une faiblesse qui m'occupait tout entière. Nous gardions le silence. Lorsque la supérieure le rompit la première, elle me dit, « Suzanne, il m'a paru, par ce que vous m'avez dit de votre première supérieure, qu'elle vous était fort chère. » « Beaucoup. » Elle ne vous aimait pas mieux que moi, mais elle était mieux aimée de vous. Vous ne me répondez pas? J'étais malheureuse, elle adoucissait mes peines. Mais d'où vient votre répugnance pour la vie religieuse ? Suzanne, vous ne m'avez pas tout dit.
Pardonnez-moi, madame.
Quoi ? Il n'est pas possible, aimable comme vous l'êtes, car mon enfant, vous l'êtes beaucoup, vous ne savez pas combien, que personne ne vous l'ait dit.
On me l'a dit.
Et celui qui vous le disait ne vous déplaisait pas ?
Non.
Et vous vous êtes prise de goût pour lui ?
Point du tout.
Quoi ? Votre cœur n'a jamais rien senti ?
Rien.
Quoi ? Ce n'est pas une passion ou secrète ou désapprouvée de vos parents qui vous a donné de l'aversion pour le couvent ? Confiez-moi cela. Je suis indulgente.
Je n'ai, chère mère, rien à vous confier là-dessus.
Mais, encore une fois, d'où vient votre répugnance pour la vie religieuse ?
De la vie même. J'en ai les devoirs, les occupations, la retraite, la contrainte. Il me semble que je suis appelée à autre chose.
Mais à quoi cela vous semble-t-il ?
À l'ennui qui m'accable. Je m'ennuie.
Ici même ?
Oui, chère mère, ici même, malgré toute la bonté que vous avez pour moi.
Mais est-ce que vous éprouvez en vous-même des mouvements, des désirs ?
Aucun.
Je le crois, vous me paraissez d'un caractère tranquille.
Assez. Froid même. Je ne sais.
Vous ne connaissez pas le monde ?
Je le connais peu.
Quel attrait peut-il donc avoir pour vous ?
Cela ne m'est pas bien expliqué, mais il faut pourtant qu'il en ait. Est-ce la liberté que vous regrettez ?
C'est cela, et peut-être beaucoup d'autres choses.
Et ces autres choses, quelles sont-elles ?
Mon ami, parlez-moi à cœur ouvert. Voudriez-vous être marié ?
Je l'aimerais mieux que d'être ce que je suis, cela est certain.
Pourquoi cette préférence ?
Je l'ignore.
Vous l'ignorez ? Mais dites-moi, quelle impression fait sur vous la présence d'un homme ?
Aucune. S'il a de l'esprit et qu'il parle bien, je l'écoute avec plaisir. S'il est d'une belle figure, je le remarque.
Et votre cœur est tranquille ?
Jusqu'à présent, il est resté sans émotion.
Quoi ? Lorsqu'ils ont attaché leurs regards animés sur les vôtres, vous n'avez pas ressenti...
Quelquefois, de l'embarras, il me faisait baisser les yeux.
Sans aucun trouble ?
Aucun.
Et vos sens ne vous disaient rien ?
Je ne sais ce que c'est que le langage des sens.
Ils en ont un, cependant.
Cela se peut.
Et vous ne le connaissez pas ?
Point du tout.
Quoi ? Vous ? C'est un langage bien doux. Et voudriez-vous le connaître ?
Non, chère mère, à quoi cela me servirait-il ?
À dissiper votre ennui.
À l'augmenter, peut-être. Et puis, que signifie ce langage des sens sans objet ?
Quand on parle, c'est toujours à quelqu'un. Cela vaut mieux sans doute que de s'entretenir seul, quoique ce ne soit pas tout à fait sans plaisir.
Je n'entends rien à cela.
Si tu voulais, cher enfant, je te deviendrais plus clair.
Non, chère mère, non, je ne sais rien, et j'aime mieux ne rien savoir que d'acquérir des connaissances qui me rendraient peut-être plus à plaindre que je ne le suis. Je n'ai point de désir, et je n'en veux point chercher que je ne pourrais satisfaire.
Et pourquoi ne le pourrais-tu pas ?
Et comment le pourrais-je ?
Comme moi ? Comme vous ? Mais il n'y a personne dans cette maison.
J'y suis, cher ami. Vous y êtes.
Eh bien, que vous suis-je ? Que m'êtes-vous ?
Qu'elle est innocente.
Oh, il est vrai, chère mère, que je le suis beaucoup et que j'aimerais mieux mourir que de cesser de l'être.
Je ne sais ce que ces derniers mots pouvaient avoir de fâcheux pour elle, mais ils la firent tout à coup changer de visage. Elle devint sérieuse, embarrassée. Sa main qu'elle avait posée sur un de mes genoux cessa d'abord de le presser, et puis se retira. Elle tenait ses yeux baissés. Je lui dis,
Ma chère mère, qu'est-ce qui m'est arrivé? Est-ce qu'il me serait échappé quelque chose qui vous aurait offensé? Pardonnez-moi, juste de la liberté que vous m'avez accordée. Je n'étudie rien de ce que j'ai à vous dire. Et puis, quand je m'étudierai, je ne dirai pas autrement, peut-être plus mal. Les choses dont nous nous entretenons me sont si étrangères. Pardonnez-moi. En disant ces derniers mots, je jetai mes deux bras autour de son cou et je posai ma tête sur son épaule. Elle jeta les deux siens autour de moi et me serra fort tendrement. Nous demeurâmes ainsi quelques instants. Ensuite, reprenant sa tendresse et sa sérénité, elle me dit « Suzanne, dormez-vous bien ?»«
Fort bien, lui dis-je, surtout depuis quelque temps. »«
Vous endormez-vous tout de suite ?»
Assez communément.
Mais quand vous ne vous endormez pas tout de suite, à quoi pensez-vous?
À ma vie passée, à celle qui me reste, où je prie Dieu, où je pleure, que sais-je.
Et le matin, quand vous vous éveillez de bonne heure?
Je me lève.
Tout de suite?
Tout de suite.
Vous n'aimez donc pas à rêver?
Non.
À vous reposer sur votre oreiller?
Non.
À jouir de la douce chaleur du lit?
Non.
Jamais?
Elle s'arrêta à ce mot, et elle eut raison. Ce qu'elle avait à me demander n'était pas bien. Et peut-être ferais-je beaucoup plus mal de le dire, mais j'ai résolu de ne rien sceller.
Jamais vous n'avez été tentée de regarder avec complaisance combien vous êtes belle?
Non, chère mère. Je ne sais pas si je suis si belle que vous le dites. Et puis, quand je le serai, c'est pour les autres qu'on est belle et non pour soi.
Jamais vous n'avez pensé à promener vos mains sur cette belle gorge, sur ces cuisses, sur ce ventre, sur ces chairs si fermes, si douces et si blanches?
Oh, pour cela, non, il y a du péché à cela. Et si cela m'était arrivé, je ne sais comment j'aurais fait pour l'avouer à confesse.
Je ne sais ce que nous dîmes encore, lorsqu'on vint l'avertir qu'on la demandait au parloir. Il me parut que cette visite lui causait du dépit et qu'elle aurait mieux aimé continuer de causer avec moi, quoique ce que nous disions ne valût guère la peine d'être regretté. Cependant, nous nous séparâmes. Jamais la communauté n'avait été plus heureuse que depuis que j'y étais entrée. La supérieure paraissait avoir perdu l'inégalité de son caractère. On disait que je l'avais fixée. Elle donna même en ma faveur plusieurs jours de récréation et ce qu'on appelle des fêtes. Ces jours, on est un peu mieux servi qu'à l'ordinaire. Les offices sont plus courts et tout le temps qui les sépare est accordé à la récréation. Mais ce temps heureux devait passer pour les autres et pour moi. La scène que je viens de peindre fut suivie d'un grand nombre d'autres semblables que je néglige. Voici la suite de la précédente. L'inquiétude commençait à s'emparer de la supérieure. Elle perdait sa gaieté, son embonpoint, son repos. La nuit suivante, lorsque tout le monde dormait et que la maison était dans le silence, elle se leva. Après avoir erré quelque temps dans les corridors, elle vint à ma cellule. J'ai le sommeil léger, je crus la reconnaître. Elle s'arrêta. En s'appuyant le front apparemment contre ma porte, elle fit assez de bruit pour me réveiller si j'avais dormi. Je gardai le silence. Il me sembla que j'entendais une voix qui se plaignait, quelqu'un qui soupirait. J'eus d'abord un léger frisson, ensuite je me déterminai à dire « Ave ». Au lieu de me répondre, on s'éloignait à pas léger. On revint quelque temps après. Les plaintes et les soupirs recommencèrent. Je dis encore « Ave » et l'on s'éloigna pour la seconde fois. Je me rassurai et je m'endormis. Pendant que je dormais, on entra. On s'assit à côté de mon lit. Mes rideaux étaient entr'ouverts. On tenait une petite bougie dont la lumière m'éclairait le visage et celle qui la portait me regardait dormir. Ce fut du moins ce que j'en jugeais à son attitude lorsque j'ouvris les yeux. et cette personne, c'était la supérieure. Je me levai subitement. Elle vit ma frayeur, elle me dit « Suzanne, rassurez-vous, c'est moi !» Je me remis la tête sur mon oreiller et je lui dis « Chère mère, que faites-vous ici à l'heure qu'il est? Qu'est-ce qui peut vous avoir amené? Pourquoi ne dormez-vous pas ?»«
Je ne saurais dormir, » me répondit-elle. « Je ne dormirai de longtemps. Ce sont des songes fâcheux qui me tourmentent. À peine ai-je les yeux fermés que les peines que vous avez souffertes se retracent à mon imagination. Je vous vois entre les mains de ces inhumaines. Je vois vos cheveux épars sur votre visage. Je vous vois les pieds ensanglantés, la torche au poing, la corde au cou. Je crois qu'elles vont disposer de votre vie. Je frissonne, je tremble, une sueur froide se répand sur tout mon corps. Je veux aller à votre secours, je pousse des cris, je m'éveille. Et c'est inutilement que j'attends que le sommeil revienne. Voilà ce qui m'est arrivé cette nuit. J'ai craint que le ciel ne m'annonçât quelque malheur arrivé à mon ami. Je me suis levée, je me suis approchée de votre porte, j'ai écouté. Il m'a semblé que vous ne dormiez pas, vous avez parlé. Je me suis retirée. Je suis revenue, vous avez encore parlé, et je me suis encore éloignée. Je suis revenue une troisième fois, et lorsque j'ai cru que vous dormiez, je suis entrée. Il y a déjà quelque temps que je suis à côté de vous, et que je crains de vous éveiller. J'ai balancé d'abord si je tirerais vos rideaux. Je voulais m'en aller, crainte de troubler votre repos. Mais je n'ai pas pu résister au désir de voir si ma chère Suzanne se portait bien. Je vous ai regardé. Que vous êtes belle à voir, même quand vous dormez. Ma chère mère, que vous êtes bonne. J'ai pris froid, mais je sais que je n'ai rien à craindre de fâcheux pour mon enfant, et je crois que je dormirai. Donnez-moi votre main. Je la lui donnai. Que son pouls est tranquille, qu'il est égal, rien ne l'émeut. J'ai le sommeil assez paisible. Que vous êtes heureuse. Chère mère, vous continuerez de vous refroidir. Vous avez raison. Adieu, belle amie. Adieu, je m'en vais. Cependant, elle ne s'en allait point. Elle continuait à me regarder. Deux larmes coulaient de ses yeux. « Chère mère, lui dis-je, qu'avez-vous? Vous pleurez. Que je suis fâchée de vous avoir entretenu de mes peines. » À l'instant, elle ferma ma porte. Elle éteignit sa bougie et elle se précipita sur moi. Elle me tenait embrassée. Elle était couchée sur ma couverture à côté de moi. Son visage était collé sur le mien. Ses larmes mouillaient mes joues. Elle soupirait et elle me disait d'une voix plaintive et entrecoupée « Cher ami, ayez pitié de moi !»« Chère mère, lui dis-je, qu'avez-vous? Est-ce que vous vous trouvez mal? Que faut-il que je fasse ?»« Je tremble, me dit-elle, je frissonne, un froid mortel s'est répandu sur moi. »« Voulez-vous que je me lève et que je vous cède mon lit ?»« Non, me dit-elle, il ne serait pas nécessaire que vous vous levassiez. Écartez seulement un peu la couverture que je m'approche de vous, que je me réchauffe. » et que je guérisse. Chère mère, lui dis-je, mais cela est défendu. Que dirait-on si on le savait? J'ai vu mettre en pénitence des religieuses pour des choses beaucoup moins graves. Il arriva dans le couvent de Sainte-Marie à une religieuse d'aller la nuit dans la cellule d'une autre. C'était sa bonne amie. Et je ne saurais vous dire le mal qu'on en pensait. Le directeur m'a demandé quelquefois si l'on ne m'avait jamais proposé de venir dormir à côté de moi. Et il m'a sérieusement recommandé de ne pas le souffrir. Je lui ai même parlé des caresses que vous me faisiez. Je les trouve très innocentes. Mais lui, il ne pense point ainsi. Je ne sais comment j'ai oublié ses conseils. Je m'étais bien proposé de vous en parler. Cher ami, me dit-elle, tout dort autour de nous. Personne n'en saura rien. C'est moi qui récompense ou qui punis. Et quoi qu'en dise le directeur, je ne vois pas quel mal il y a à une amie, à recevoir à côté d'elle une amie que l'inquiétude a saisie, qui s'est éveillée et qui est venue pendant la nuit, et malgré la rigueur de la saison, voir si sa bien-aimée n'était dans aucun péril. Suzanne, N'avez-vous jamais partagé le même lit chez vos parents avec une de vos sœurs ?
Non, jamais.
Si l'occasion s'en était présentée, ne l'auriez-vous pas fait sans scrupule ? Si votre sœur, alarmée et transie de froid, était venue vous demander place à côté de vous, l'auriez-vous refusé ?
Je crois que non.
Et ne suis-je pas votre chère mère ?
Oui, vous l'êtes, mais cela est défendu.
Cher ami, c'est moi qui le défends aux autres et qui vous le permet et vous le demande. Que je me réchauffe un moment et je m'en irai. Donnez-moi votre main.
Je la lui donnai.
Tenez, me dit-elle, tâtez. Voyez, je tremble, je frissonne, je suis comme un marbre.
Et cela était vrai.
Oh, la chère mère, lui dis-je, elle en sera malade. Mais attendez, je vais m'éloigner sur le bord, et vous vous mettrez dans l'endroit chaud.
Je me rangeai de côté, je levai la couverture, et elle se mit à ma place.
Oh, qu'elle était mal! Elle avait un tremblement général dans tous les membres. Elle voulait me parler, elle voulait s'approcher de moi. Elle ne pouvait articuler, elle ne pouvait se remuer. Elle me disait à voix basse, « Suzanne, mon amie, approchez-vous un peu !»
Elle étendit ses bras. Je lui tournai le dos.
Elle me prit doucement. Elle me tira vers elle et passa son bras droit sous mon corps et l'autre dessus. Et elle me dit « Je suis glacée. J'ai si froid que je crains de vous toucher, de peur de vous faire mal. »
« Chère mère, ne craignez rien. » Aussitôt, elle mit une de ses mains sur ma poitrine et l'autre autour de ma ceinture. Ses pieds étaient posés sous les miens et je les pressais pour les réchauffer. Et la chère mère me disait « Ah, chère amie, voyez comme mes pieds se sont promptement réchauffés parce qu'il n'y a rien qui les sépare des vôtres. » « Mais, lui dis-je, qui empêche que vous ne vous réchauffiez partout de la même manière ?»«
Rien, si vous voulez. »
Je m'étais retournée. Elle avait écarté son linge. Et j'allais écarter le mien. Lorsque tout à coup on frappa deux coups violents à la porte. Effrayée, je me jette sur le champ hors du lit d'un côté et la supérieure de l'autre. Nous écoutons et nous entendons quelqu'un qui regagnait sur la pointe du pied la cellule voisine.
« Ah !» lui dis-je, « c'est ma sœur Sainte Thérèse. Elle vous aura vu passer dans le corridor et entrer chez moi. Elle nous aura écoutés. Elle aura surpris nos discours. Que dira-t-elle ? » J'étais plus morte que vive. « Oui, c'est elle, » me dit la supérieure d'un ton irrité. « C'est elle, je n'en doute pas. Mais j'espère qu'elle se ressouviendra longtemps de sa témérité.
Oh, « Chère mère, » lui dis-je, « ne lui faites point de mal. »«
Suzanne, » me dit-elle, « adieu, bonsoir. Recouchez-vous, dormez bien. Je vous dispense de l'oraison. Je vais chez cette étourdie. Donnez-moi votre main. »
Je la lui tendis d'un bord du lit à l'autre. Elle releva la manche qui me couvrait le bras. Elle le baisa en soupirant sur toute la longueur, depuis l'extrémité des doigts jusqu'à l'épaule. Et elle sortit en protestant que la téméraire qui avait osé la troubler s'en ressouviendrait. Aussitôt, je m'avançai promptement à l'autre bord de ma couche, vers la porte, et j'écoutais. Elle entra chez sœur Thérèse. Je fus tentée de me lever et d'aller m'interposer entre elle et la supérieure, s'il arrivait que la scène devint violente. Mais j'étais si troublée, si mal à mon aise, que j'aimais mieux rester dans mon lit. Mais je n'y dormis pas. Je pensais que j'allais devenir l'entretien de la maison, que cette aventure, qui n'avait rien en soi que de bien simple, serait racontée avec les circonstances les plus défavorables, qu'il en serait ici pis encore qu'à Longchamp, où je fus accusé de je ne sais quoi, que notre faute parviendrait à la connaissance des supérieurs, que notre mère serait déposée, et que nous serions l'une et l'autre sévèrement punis. Cependant, j'avais l'oreille au guet. J'attendais avec impatience que notre mère sortît de chez sœur Thérèse. Cette affaire fut difficile à accommoder apparemment, car elle y passa presque toute la nuit. Que je la plaignais. Elle était en chemise, toute nue, et transie de colère et de froid. Le matin, j'avais bien envie de profiter de la permission qu'elle m'avait donnée et de demeurer couchée. Cependant, il me vint en esprit qu'il n'en fallait rien faire. Je m'habillai bien vite et me trouvai la première au chœur, où la supérieure et Sainte Thérèse ne parurent point, ce qui me fit grand plaisir. Premièrement, parce que j'aurais eu de la peine à soutenir la présence de cette sœur sans embarras. Secondement, c'est que, puisqu'on lui avait permis de s'absenter de l'office, elle avait apparemment obtenu de la supérieure un pardon qu'elle ne lui aurait accordé qu'à des conditions qui devaient me tranquilliser. J'avais deviné. À peine l'office fut-il achevé que la supérieure m'envoya chercher. J'allai la voir. Elle était encore au lit. Elle avait l'air abattue. Elle me dit « J'ai souffert, je n'ai point dormi. Sainte Thérèse est folle. Si cela lui arrive encore, je l'enfermerai. » « Ah, chère mère, lui dis-je, ne l'enfermez jamais. Cela dépendra de sa conduite. Elle m'a promis qu'elle serait meilleure, et j'y compte. Et vous, chère Suzanne, comment vous portez-vous ? » « Bien, chère mère. Avez-vous un peu reposé ? » « Fort peu. On m'a dit que vous aviez été au cœur. Pourquoi n'êtes-vous pas resté sur votre traversin ? » J'y aurais été mal, et puis j'ai pensé qu'il valait mieux... Non, il n'y avait point d'inconvénient. Mais je me sens quelque envie de sommeiller. Je vous conseille d'en aller faire autant chez vous, à moins que vous n'aimiez mieux accepter une place à côté de moi. Chère mère, je vous suis infiniment obligée. J'ai l'habitude de coucher seule, et je ne saurais dormir avec une autre. Tandis qu'on était ainsi occupés, j'entendis frapper doucement à la porte. J'y allais, la supérieure me dit « Sainte Suzanne, vous reviendrez ?»« Oui, chère mère. N'y manquez pas, car j'ai quelque chose d'important à vous communiquer. »« Je vais rentrer. » C'était cette pauvre Sainte Thérèse. Elle demeura un petit moment sans parler, et moi aussi. Ensuite, je lui dis « Chère sœur, est-ce à moi que vous en voulez ?»« Oui. » »« À quoi puis-je vous servir ?» Je vais vous le dire. J'ai encouru la disgrâce de notre chère mère. Je croyais qu'elle m'avait pardonné, et j'avais quelques raisons de le penser. Cependant, vous êtes toutes assemblées chez elle, je n'y suis pas, et j'ai ordre de demeurer chez moi. Est-ce que vous voudriez entrer ? Oui. Est-ce que vous souhaiteriez que j'en sollicitasse la permission ? Oui. Attendez, chère amie, j'y vais. « Sincèrement, vous lui parlerez pour moi ?»« Sans doute. Et pourquoi ne vous le promettrai-je pas ? Et pourquoi ne le ferai-je pas après vous l'avoir promis ?»« Ah !» me dit-elle en me regardant tendrement. « Je lui pardonne. Je lui pardonne le goût qu'elle a pour vous. C'est que vous possédez tous les charmes, la plus belle âme et le plus beau corps. » J'étais enchantée d'avoir ce petit service à lui rendre. Je rentrai. Une autre avait pris ma place en mon absence sur le bord du lit de la supérieure, était penchée vers elle, le coude appuyé entre ses deux cuisses, et lui montrait son ouvrage. La supérieure, les yeux presque fermés, lui disait oui et non sans presque la regarder. Et j'étais debout à côté d'elle sans qu'elle s'en aperçût. Cependant, elle ne tarda pas à revenir de sa légère distraction. Celle qui s'était emparée de ma place me la rendit. Je me rassis. Ensuite, me penchant doucement vers la supérieure, qui s'était un peu relevée sur ses oreillers, je me tus. Mais je la regardais comme si j'avais une grâce à lui demander. « Eh bien, me dit-elle, qu'est-ce qu'il y a ? Parlez, que voulez-vous ? Est-ce qu'il est en moi de vous refuser quelque chose ?»«
La sœur Sainte Thérèse... »«
J'entends. » J'en suis très mécontente, mais Sainte Suzanne intercède pour elle, et je lui pardonne. Allez lui dire qu'elle peut entrer. J'y courus. La pauvre petite sœur attendait à la porte. Je lui dis d'avancer. Elle le fit en tremblant. Elle avait les yeux baissés. Elle tenait un long morceau de mousseline attaché sur un patron qui lui échappa des mains au premier pas. Je le ramassai. Je la pris par un bras et la conduisis à la supérieure. Elle se jeta à genoux. Elle saisit une de ses mains qu'elle baisa en poussant quelques soupirs et en versant une larme. Puis elle s'empara d'une des miennes qu'elle joignit à celle de la supérieure et les baisa l'une et l'autre. La supérieure lui fit signe de se lever et de se placer où elle voudrait. Elle obéit. On servit une collation. La supérieure se leva. Elle ne s'assit point avec nous, mais elle se promenait autour de la table, posant sa main sur la tête de l'une, la renversant doucement en arrière et lui baisant le front, levant le linge de cou à une autre, plaçant sa main dessus, et demeurant appuyée sur le dos de son fauteuil. Passant à une troisième et laissant aller sur elle une de ses mains ou la plaçant sur sa bouche, goûtant du bout des lèvres aux choses qu'on avait servies et les distribuant à celle-ci, à celle-là. Après avoir circulé ainsi un moment, elle s'arrêta en face de moi, me regardant avec des yeux très affectueux et très tendres. Cependant, les autres les avaient baissés, comme si elles eussent craint de la contraindre ou de la distraire, mais surtout la sœur Sainte Thérèse. La collation faite, je me mis au clavecin, et j'accompagnai deux sœurs qui chantèrent, sans méthode, avec du goût, de la justesse et de la voix. Je chantais aussi, et je m'accompagnais. La supérieure était assise au pied du clavecin et paraissait goûter le plus grand plaisir à m'entendre et à me voir. Les autres écoutaient sans rien faire ou s'étaient remis à l'ouvrage. Cette soirée fut délicieuse. Cela fait, toutes se retirèrent. Je m'en allais avec les autres, mais la supérieure m'arrêta. « Quelle heure est-il ? » me dit-elle. « Tout à l'heure, 6 heures. Quelques-unes de nos discrètes vont entrer. J'ai réfléchi sur ce que vous m'avez dit de votre sortie de Longchamp. Je leur ai communiqué mes idées. Elles les ont approuvées et nous avons une proposition à vous faire. Il est impossible que nous ne réussissions pas. Et si nous réussissons, cela fera un petit bien à la maison et quelques douceurs pour vous. » À 6 heures, les discrètes entrèrent. La discrétion des maisons religieuses est toujours bien décrépite et bien vieille. Je me levai. Elles s'assirent. Et la supérieure me dit : « Sœur Sainte Suzanne, ne m'avez-vous pas appris que vous deviez à la bienfaisance de M. Manoury la dot qu'on vous a faite ici ?»« Oui, chère mère. » »« Je ne me suis donc pas trompée, et les sœurs de Longchamp sont restées en possession de la dot que vous leur avez payée en entrant chez elles. » « Oui, chère mère. » « Elles ne vous ont rien rendu ?»« Non, chère mère. » « Elles ne vous en font point de pension ?»« Non, chère mère. » « Cela n'est pas juste. C'est ce que j'ai communiqué à nos discrètes, et elles pensent comme moi, que vous êtes en droit de demander contre elles, ou que cette dot vous soit restituée au profit de notre maison, ou qu'elles vous en fassent la rente. » Ce que vous tenez de l'intérêt que M. Manoury a pris à votre sort n'a rien de commun avec ce que les sœurs de Longchamp vous doivent. Ce n'est point à leur acquis qu'il a fourni votre dot. » Je ne le crois pas, mais pour s'en assurer, le plus court, c'est de lui écrire. » Sans doute. Mais au cas que sa réponse soit telle que nous la désirons, voici les propositions que nous avons à vous faire. Nous entreprendrons le procès en votre nom contre la maison de Longchamp. La nôtre fera les frais, qui ne seront pas considérables, parce qu'il y a bien de l'apparence que M. Manoury ne refusera pas de se charger de cette affaire. Et si nous gagnons, la maison partagera avec vous, moitié par moitié, le fonds ou la rente. Qu'en pensez-vous, chère sœur ? Vous ne répondez pas, vous rêvez. » Je rêve que ces sœurs de Longchamp m'ont fait beaucoup de mal, et que je serais au désespoir qu'elles imaginassent que je me venge. » « Il ne s'agit pas de vous venger, il s'agit de redemander ce qui vous est dû. » Se donner encore une fois en spectacle. » « C'est le plus petit inconvénient, il ne sera presque pas question de vous. Et puis notre communauté est pauvre, et celle de Longchamp est riche. Vous serez notre bienfaitrice, du moins tant que vous vivrez. Nous n'avons pas besoin de ce motif pour nous intéresser à votre conversation. Nous nous aimons toutes. » Et toutes les discrètes à la fois. « Et qui est-ce qui ne l'aimerait pas ? Elle est parfaite. » je puis cesser d'être un moment à l'autre. Une autre supérieure n'aurait pas peut-être pour vous les mêmes sentiments que moi. Ah non, sûrement, elle ne les aurait pas. Vous pouvez avoir de petites indispositions, de petits besoins. Il est fort doux de posséder un petit argent dont on puisse disposer pour se soulager soi-même ou pour obliger les autres. Chère mère, leur dis-je, ces considérations ne sont pas à négliger puisque vous avez la bonté de les faire. Il y en a d'autres qui me touchent davantage, mais il n'y a point de répugnance que je ne sois prête à vous sacrifier. La seule grâce que j'ai à vous demander, chère mère, c'est de ne rien commencer sans en avoir conféré en ma présence avec M. Manoury.
Rien n'est plus convenable. Voulez-vous lui écrire vous-même ?
Chère mère, comme il vous plaira.
Écrivez-lui. Et pour ne pas revenir deux fois là-dessus, car je n'aime pas ces sortes d'affaires, elles m'ennuient à périr, écrivez à l'instant.
On me donna une plume, de l'encre et du papier, et sur le champ, je priai M. Manoury de vouloir bien se transporter à Arpajon, aussitôt que ses occupations le lui permettraient, que j'avais besoin encore de ses secours et de son conseil, dans une affaire de quelque importance, etc. Le concile assemblé lut cette lettre, l'approuva, et elle fut envoyée. M. Manoury vint quelques jours après. La supérieure lui exposa ce dont il s'agissait. Il ne balança pas un moment à être de son avis. On traita mes scrupules de ridiculité. Il fut conclu que les religieuses de Longchamp seraient assignées dès le lendemain. Elles le furent. Et voilà que, malgré que j'en ai, mon nom reparaît dans des mémoires, des factums, à l'audience, et cela avec des détails, des suppositions, des mensonges et toutes les noirceurs qui peuvent rendre une créature défavorable à ses juges et odieuse aux yeux du public. Mais, monsieur le marquis, est-ce qu'il est permis aux avocats de calomnier tant qu'il leur plaît ? Est-ce qu'il n'y a point de justice contre eux ? Si j'avais pu prévoir toutes les amertumes que cette affaire entraînerait, je vous proteste que je n'aurais jamais consenti à ce qu'elle s'entamât. On eut l'attention d'envoyer à plusieurs religieuses de notre maison les pièces qu'on publia contre moi. À tout moment, elles venaient me demander les détails d'événements horribles qui n'avaient pas l'ombre de la vérité. Plus je montrais d'ignorance, plus on me croyait coupable. Parce que je n'expliquais rien. Que je n'avouais rien, que je niais tout. On croyait que tout était vrai. On souriait, on me disait des mots entortillés, mais très offensants. On haussait les épaules à mon innocence. Je pleurais, j'étais désolée. Mais une peine ne vient jamais seule. Le temps d'aller à confesse arriva. Je m'étais déjà accusée des premières caresses que ma supérieure m'avait faites. Le directeur m'avait très expressément défendu de m'y prêter davantage. Mais le moyen de se refuser à des choses qui font grand plaisir à une autre, dont on dépend entièrement, et auxquelles on n'entend soi-même aucun mal,